Tout d'abord, les salutations les plus chaleureuses des amis d'Aix-en-Provence, particulièrement Yves Perrier, qui pense beaucoup à vous. Et je vous invite de mon côté à le garder dans vos prières, parce qu'il a un frère aîné qui est encore loin du Seigneur et qui approche de la mort. Et Yves prie beaucoup pour lui, donc si vous pouvez vous joindre à lui, il sera très heureux. Aujourd'hui, à l'église d'Aix, l'église libre, c'est une journée pour les aumôniers. Et donc les aumôniers se réunissent pour louer Dieu ensemble, les aumôniers des prisons, des hôpitaux, les différents chrétiens qui agissent là-dessus. Donc un sujet de prière aussi pour que vous pouvez partager avec nous. Alors oui, nous revenons dans le livre des juges. Nous sommes au chapitre 13. Et nous arrivons pour une fois à un juge dont tout le monde a entendu parler. En un sens, c'est le roi soleil des juges. Pourquoi? Eh bien, parce que son nom veut dire petit soleil. Mais est-ce que Samson s'appelle petit soleil parce que les parents ont eu la vision de ce qu'il allait faire pour le Seigneur, ou est-ce que c'est parce que ils étaient influencés par les cultes païens autour d'eux? Ça, la parole ne nous le dit pas, donc je ne m'avance pas. Mais ce juge bien connu ne doit pas nous empêcher de voir l'enseignement de ces chapitres. Je vais parcourir l'histoire de Samson avec vous cette année, en 6 séances, je crois. Et il sera important de nous rappeler que les questions que Samson nous pose, les actions si dramatiques, si spectaculaires de sa vie, ses relations, ses amours, ses déceptions, ne doivent surtout pas nous faire oublier le but de la parole de Dieu. Le but de la parole, c'est que Dieu veut se révéler. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il veut nous révéler à son sujet à travers l'histoire de Samson. Pour nous aider d'abord à nous concentrer sur l'essentiel, il est très bon de se rappeler, ou pour moi peut-être de vous rappeler, le contexte de l'arrivée de Samson dans les pages du livre des juges. De rappeler notamment les dernières leçons du chapitre précédent. Alors ça remonte au mois de mai, donc je ne sais pas si vous avez relu le passage, mais dans le chapitre 12, des versets 8 à 15, Dieu nous avait montré par d'infimes détails, et parfois par l'absence de détails, un certain nombre de vérités concernant les trois juges, les petits juges dont personne ne se souvient, Ibsan, Elon et Abdon. Par ces petits juges, dont on a si peu d'informations, Dieu nous avait rappelé que d'abord, c'est lui, Dieu, qui décide. Marc-Étienne nous a déjà rappelé ce matin, et je te remercie, Marc-Étienne, que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui choisit, Dieu qui agit en premier. Et il décide de toutes choses, notamment, pour nous qui sommes curieux devant sa parole, il a décidé ce qu'il inclut et ce qu'il ne met pas dans sa parole. Ces trois petits juges nous avaient rappelé aussi que sa grâce et sa provision sont décidées aussi par Dieu, selon sa sagesse, son plan. Et sa sagesse et son plan dépassent notre compréhension. Ainsi, parmi ces trois petits juges, il y en a un qui peut être béni d'une descendance très nombreuse, un autre sans enfant. Et ce n'est pas cela qui nous permet de déterminer l'importance relative ou la fidélité relative de l'un ou de l'autre. Le passage précédent nous rappelle également l'obstination dans la rébellion de ce peuple d'Israël. Cette obstination qui a fini par priver le peuple de Dieu même des temps de repos, dont Marc-Étienne a également parlé tout à l'heure. Au moment où il y a ces trois petits juges, il y a les périodes où le juge est en vie, mais il n'y a plus de période de repos. Pourtant, c'était marqué pendant la première période des juges. Et là, ça n'existe plus. Donc, nous avons compris, et ça va être souligné dans l'histoire de Samson, que le peuple d'Israël, au moment où nous ouvrons les pages du chapitre 13, pardon, ce peuple est entré dans une période de déclin, une période de mort. Et cela aussi était rappelé juste avant le début de notre passage, par la répétition des temps d'exercice, plus ou moins longs, de ces trois petits juges, et ensuite la mort de ces trois juges, répétés trois fois. Alors, nous allons aborder les récits concernant ce 12e juge, hein, vous avez compté, Samson, c'est le 12e. Le 12e est le plus connu des juges. Et Dieu veut nous souligner que c'est lui, Dieu, qui est au centre du récit. Pas Samson. C'est lui et sa souveraineté que nous devons découvrir à travers ces chapitres. Il nous rappelle aussi la manière que la manière dont il exerce sa grâce nous dépasse. C'est pourquoi parfois nous aurons du mal à comprendre les agissements de Samson. La grâce de Dieu ne correspond pas à notre façon de voir ou de prévoir les choses. Et puis, nous ne devons pas oublier que Samson naît, grandit, agit au milieu d'un peuple qui vit un temps de déclin moral, social et spirituel. Son exemple doit tout au long nous avertir que notre environnement socio-historique peut exercer une influence sur nous. Samson doit nous faire réfléchir sur l'Église au XXIe siècle au sein d'une société en déclin. Lisons les deux premiers versets du chapitre. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile. Elle n'avait pas enfanté. Alors, avant de réfléchir plus loin sur ces deux versets, comparons-les aux versets que nous avons déjà lus ensemble. Chapitre 3, verset 9. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel suscita aux Israélites un libérateur qui les sauva. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Chapitre 3, verset 15. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, benjaminite, qui ne se servait pas de la main droite. Chapitre 4, verset 3. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Yabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Chapitre 6, versets 6 à 7. Israël fut très appauvri par Madian. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Chapitre 10, verset 10. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, nous avons abandonné notre Dieu et nous avons rendu un culte au Baal. » Relisons notre verset. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Qu'est-ce qui manque? Vous avez vu? Il ne crie plus. Il n'y a ni repentance, ni cri de détresse, ni appel au secours. Qu'est-ce que cela nous montre? Une des choses que l'on ne remarque pas en passant, on a tellement l'habitude de ces chutes et rechutes. Le déclin du peuple au moment où Samson est envoyé est énorme, terrible. Le peuple est devenu incapable de voir sa propre pauvreté, son propre besoin. Vous voyez, la nouvelle tactique des Philistins était redoutable. Il se mariait avec les Israélites. Il pénétrait leur culture, il pénétrait leur religion, il les rendait dépendants matériellement. Les poteries de l'époque en Israël sont des poteries philistines. Et seuls les Philistins travaillaient le fer. Alors, quel défi dès le début pour nous. Est-ce que, parfois, nous ne serions pas dans une situation semblable dans notre Église au XXIe siècle? Est-ce que c'est nous qui pénétrons notre société ou est-ce que c'est notre société qui nous pénètre? Autrement dit, vous, je pense comme nous, hein, vous avez soutenu il y a 15 jours particulièrement l'Église persécutée. Question pour nous, est-ce que le peuple de Dieu, il est plus vigoureux là où il est en conflit ouvert avec le monde qui l'environne, ou est-ce qu'il est plus vigoureux là où il cohabite avec ce monde? Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, voilà ce que Paul dit. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Il y a une séparation. Ça, c'était une deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Alors, ces premiers versets nous avertissent, mais ils soulignent aussi, et très clairement, la grâce extraordinaire de Dieu. Son peuple ne crie pas, eh bien Dieu n'attend pas. Dieu agit. Il n'attend pas que son peuple se rende compte de son besoin, de son état désespéré. Dieu prend lui-même l'initiative. Il envoie son sauveur même avant que l'homme aveugle ne le lui demande. Ça rappelle aussi un verset que Marc-Étienne a implicitement, en tout cas, mentionné plus tôt. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Lisons un peu plus loin. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici que tu es stérile. Tu n'as pas enfanté. pas très tendre, l'ange. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, assez mieux. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera nazirien de Dieu, dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. C'était vraiment effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, « Voici que tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur. » Parce que cet enfant sera nazirien de Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Ce passage devrait nous rappeler les premières pages de la Genèse où de rien Dieu crée. Parce que ici, le Dieu créateur commence son travail là où nous dirions ce n'est pas la peine. Il n'y a rien à faire. La femme de Manoah est stérile. Et en plus, à la différence des autres femmes stériles dont Dieu se sert dans la Bible, il aime bien montrer que c'est lui le Dieu souverain créateur. Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, Élisabeth. Mais à la différence de toutes ces femmes stériles que Dieu utilise pour enfanter des enfants spéciaux, eh bien la femme de Manoah n'a même pas de nom. On ne sait pas comment elle s'appelle. Nous ne connaissons que le nom de son époux. Son époux d'ailleurs bien nommé. Hein? Le nom Manoah veut dire « repos » ou « lieu de repos ». C'est en effet la femme qui va faire le travail au champ. Manoah apparemment reste à la maison. Ce couple, en plus, ça je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, dans le deuxième verset, ce couple fait partie, en plus, d'une tribu qui n'en est plus une, qui n'est plus qu'un petit clan. N'ayant pas réussi à entrer dans la possession que Dieu lui avait attribuée, la tribu de Dan s'est en effet dispersée, partant à la recherche d'un nouvel héritage, ne laissant qu'un tout petit reste dans la région qui lui avait été destinée lors de la conquête de la terre promise. Donc une tribu dispersée, plus une tribu, une femme stérile, voilà, et un mari qui peut-être prend trop de repos, je ne sais pas. Dieu travaille avec ses matériaux et il envoie un sauveur. Il ne choisit pas les situations faciles. C'est comme si Dieu voulait encourager notre foi et décourager toute dépendance que nous avons tendance à avoir de nos avantages matériels. Il sollicite donc cette foi. La femme de Manoah nous montre qu'elle est prête à croire. Et il nous dit en même temps que notre fameux « Aide-toi et Dieu t'aidera » n'est absolument pas une parole biblique. L'intervention de Dieu ne dépend pas de nous. C'est lui qui est Dieu. Il décide ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire. Et il le fait, dans sa grâce. Dans cette même grâce, il a décidé, en effet, de nous associer à ce qu'il fait. Mais quelle arrogance de notre part de penser que les actions de Dieu dépendraient de ce que nous faisons. Donc, cette grande vérité nous prépare à la suite de l'histoire. Dieu seul peut donner un enfant à cette femme. Dieu seul peut rendre Samson capable de faire ce qu'il est appelé à faire. Dieu seul peut se servir des actions d'un homme comme Samson, que nous allons apprendre à connaître, pour faire avancer son plan à lui. Lui seul aussi décide de la portée de ses actes. Est-ce que vous avez remarqué l'annonce de l'ange? Il dit, c'est lui qui commencera. Alors, au verset 5, c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Il faut commencer le travail. Israël ne s'est même pas rendu compte qui est son ennemi à ce moment-là. Et c'est lui qui va commencer. Et Dieu a décidé qu'il n'allait pas finir. Si nous connaissons l'Écriture, nous savons que Dieu avait déterminé que après Samson, eh bien, Samuel, Saül, Jonathan et David allaient achever le travail que Samson avait commencé. Nous arrivons au verset 10. Au verset 10, réaction de Manoah. 8, pardon. Verset 8 à 10. Manoah pria à l'Éternel en ces termes. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé viennent encore vers nous et qui nous enseignent ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu entendit la voix de Manoah. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement l'annoncer à son mari. Elle lui dit, « Voici que l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Nous nous demandons si, nous, dans la situation de Manoah, nous aurions eu la même audace. Sa femme a déjà vu un ange. Un ange lui est devenu visible. Et apporter un message éclatant, merveilleux. Et Manoah dit, ah ben, oui, moi je veux voir ça. Je ne sais pas si nous aurions eu le courage ou le manque de foi ou la foi. En tout cas, l'intention semble être bonne. Il a le courage, il fait cette prière. Et nous passons ce passage très vite, n'est-ce pas, lorsque nous lisons. Alors, est-ce que nous ratons le miracle banal? Est-ce que Dieu est obligé de renvoyer son ange? Vous verrez dans la suite du passage que ce que l'ange dit à Manoah, il l'a déjà dit à sa femme. Il n'avait pas besoin. Quelle est notre attitude envers la prière? C'est quoi la prière pour vous, pour nous? Est-ce que c'est une corvée? Un devoir? Ou est-ce que c'est un acquis? Quand je prie Dieu, il écoute toujours. C'est son rôle, c'est son job. Manoah nous fait réfléchir. Il prie et Dieu répond. Il envoie son ange. C'est le miracle. Lorsque nous prions, c'est vrai que nous savons que Dieu nous écoute. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous écouterait? Parce qu'il est un Dieu de compassion, de souveraineté, et c'est miraculeux. Il est Dieu, et il nous écoute. Ne passons pas à côté de ce miracle quotidien. Manoah n'a donc pas vraiment besoin de voir l'homme de Dieu. Le message déjà reçu était suffisant. parce que notre compréhension du message de Dieu, de toute façon, reste toujours partielle. Il sait donc déjà qu'il aura un fils. Il sait déjà qu'il faudra l'élever de manière spéciale, car il est nazirien dès sa conception. Et les règles sont clairement définies dans le texte de la loi que Manoah a déjà à disposition. En tout cas, Israël a déjà à disposition. Manoah sans doute pas chez lui. Dans Nombre, chapitre 6, versets 1 à 21, donc, tous les détails de comment il faut vivre quand on est nazirien. Défi pour nous d'ailleurs, qui sommes appelés à être naziriens pour le peuple autour de nous. Il sait aussi qu'il aura une mission limitée, mais très importante pour le peuple de Dieu. Mais il veut aller plus loin. Alors peut-être que là, Manoah est un peu secoué. Il veut exercer son rôle de chef de famille. Il veut contrôler le récit de sa femme. Il veut peut-être même être encouragé dans sa propre foi afin de mieux obéir à l'ordre de Dieu. Dieu qui n'est pas obligé de répondre, mais le miracle de la grâce, c'est qu'il le fait. Mais il répond à Manoah d'une façon qui montre que c'est lui qui décide dans la suite. Verset 11. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répond, « C'est moi. » Manoah dit, « Maintenant, quand ta parole s'accomplira, quelles seront la règle et la conduite à tenir à l'égard de l'enfant ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ta nourriture. » Mais si tu veux faire un holocauste à l'Éternel, fais-le. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? C'est un mystère. » Manoah prit le chevreau et l'offrande. Il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit un fait mystérieux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la femme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Que veut Manoah lorsqu'il est confronté à l'ange ? Il veut s'assurer du message. Il veut s'assurer de ce qu'il a à faire. Il veut aussi exercer l'hospitalité, fait culturel qui appartenait au peuple de Dieu. Offrir à manger à cette invitée surprise. Il voulait aussi connaître celui qui lui parlait. C'est pourquoi il lui demande son nom. Peut-être parce qu'il voulait maîtriser davantage la situation, peut-être tout simplement parce qu'il voulait l'honorer. Il voulait aussi offrir un sacrifice convenable. Et Dieu, en répondant à Manoah, qu'est-ce que Dieu veut ? Lui, il veut susciter la foi de son enfant. Il veut susciter également l'obéissance de son enfant. Il répète les instructions. Il veut intervenir par cet enfant pour sauver son peuple malgré lui. Il veut aussi accepter son adoration. Il n'accepte pas le repas, mais il accepte l'offrande. Oui, tu peux adorer Dieu. Et il veut aussi se révéler dans les limites que lui-même impose. Et non pas dans les termes de Manoah qui, tout en étant sans doute homme de foi, n'a qu'une compréhension partielle. Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Le passage le rappelle aussi. Le nom, le caractère, la nature, l'essence de Dieu, ce nom est un nom mystérieux. Nous ne pouvons le comprendre. Nous ne pouvons le saisir, le réduire à notre niveau. Dieu nous dépasse. Nous ne pouvons prétendre tout connaître de lui. Vous voyez, la foi et l'humilité vont de pair. Et c'est ce que l'ange rappelle à Manoah. On ne peut avoir la foi sans l'humilité. L'un ne va pas sans l'autre. Verset 19. Verset 20, pardon, je reprends. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent à face contre terre. L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à sa femme, « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Dans Exode, chapitre 33, verset 20, Dieu parle à Moïse et il lui dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Donc, ne sourions pas devant la terreur de Manoah qui croit qu'il va mourir. Car Manoah a parfaitement raison. Qui a pu nous donner, à nous autres chrétiens, l'idée qu'un Dieu si grand et si saint puisse ne pas être aussi terrifiant? L'auteur de l'Épître aux Hébreux n'a pas oublié lui. Mais on saute si vite ce passage, n'est-ce pas? Il n'a pas oublié que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je vous invite à relire chapitre 12, le verset 29 d'Hébreux. Si nous avions un peu plus la crainte de son nom, peut-être que notre comportement devant lui serait différent. Nous serions sans doute plus prompts à obéir. Nous essayerions un peu moins souvent de ne lui donner qu'une partie de notre vie. En même temps que l'attitude de Manoah nous fait réfléchir à la grandeur de Dieu, réjouissons-nous que sa femme, la femme de Manoah, avec sa foi et son bon sens, ou plutôt son bon sens rempli et éclairée par la foi, elle a raison aussi. Un Dieu saint, un Dieu tout-puissant, un Dieu juste, un Dieu omniscient, devant qui nous ne pouvons pas nous tenir, a décidé, dans sa grâce, non sollicitée, de sauver son peuple. Il agrée donc notre service et notre louange. Mais nous, le message pour nous, c'est de nous garder, d'imiter l'exemple d'un seul des époux. nous devons avoir l'attitude de Manoah et l'attitude de sa femme. Servez l'Éternel avec crainte, lisons-nous dans le psaume 2. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Vous voyez l'équilibre dans ce psaume fantastique. Le dernier verset, la femme enfanta un fils, lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Mahané Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Dieu s'occupe du début de l'histoire. Il s'occupera de la fin. Il accomplit sa promesse. De tous les juges, Samson seul, c'est le seul, vous avez remarqué cela en lisant les juges, c'est le seul dont on a le récit de la naissance. Nous le connaissons dès avant sa conception. Cela arrive parfois dans la parole, parce qu'il s'agit vraiment d'une naissance ultra extraordinaire. Et nous, évidemment, nous pensons avant tout à la naissance de Jésus-Christ. Mais on aurait pu parler de Jean-Baptiste aussi. Mais ici, il s'agit sans doute avant tout de nous rappeler ce que nous avons déjà vu en introduction. La Bible est là pour nous révéler Dieu, pour nous révéler son action. Il met dans sa parole ce qui est essentiel, ce qui lui permet de se révéler, se faire connaître. Nous devons donc comprendre que le récit de cette conception, cette naissance de Dieu, montre que Dieu ne fait pas ce qu'il peut faire avec les hommes qu'il trouve comme ça par terre. Dieu n'est pas un bricoleur. Il a un plan et il accomplit son plan de A à Z, dans le cas de Samson comme dans le cas de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre nous le rappelle, n'est-ce pas? Vous rappelez? Le Christ a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Le défi pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est de nous poser la question, est-ce que nous croyons cela en ce qui nous concerne? En ce qui concerne notre vie, en ce qui concerne ma vie, Dieu a un plan, il ne bricole pas. Est-ce que nous croyons cela suffisamment pour aller faire ce que Dieu a prévu pour nous, individuellement et collectivement comme son peuple, aujourd'hui? C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Prions ensemble. Seigneur, que ta parole est merveilleuse. Merci. Merci de ce qu'elle te révèle. Nous te confessons, Seigneur, que si souvent nous voyons la couleur, nous voyons les personnalités, nous voyons les héros de la foi et nous oublions de te voir, de te reconnaître, de te connaître plus profondément, afin d'aimer et de craindre, d'écouter et d'obéir. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous à travers ces leçons du livre des juges. Apprends-nous par toutes nos lectures de ta parole. À savoir que tu as un plan et que tu as décidé de passer par ton peuple pour accomplir ce plan. C'est une grâce merveilleuse, Seigneur, mais garde-nous, empêche-nous, nous te prions, de passer à côté de ce miracle banal. Que ton nom soit glorifié, en Jésus-Christ. Amen.